Les grands événements du Collège de France.
Bonsoir à tous et à toutes, Madame la Ministre, Monsieur l'Administrateur, Mesdames, Messieurs. Donc, je suis très heureux d'être ici, le Monsieur loyal de ces soirées de la Philharmonie de Paris accueillie au Collège de France. Et nous sommes ici donc ce soir pour l'avant-dernière de la série de rencontres entre des artistes et des professeurs du Collège de France. Et donc j'ai vraiment le plaisir d'accueillir pour cette soirée consacrée au thème Figurer la musique, eh bien Gaëlle Schwann, qui est artiste plasticienne. Patrick Boucheron, professeur ici sur la chaire d'histoire des pouvoirs à la Renaissance et qu'on ne présente pas ici. Et évidemment, Chloé Cambrelin, qui est l'animatrice et l'instigatrice de la soirée. Donc voilà, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Et William Marx est donc le professeur référent de ce cycle musique, la Philharmonie au Collège de France. Bonsoir et merci d'être avec nous pour en effet déjà cette avant-dernière rencontre organisée dans le cadre de ce cycle. Et merci encore une fois aux équipes du Collège pour cette invitation, ce travail commun autour du dialogue entre les arts et les idées, cette mise en relation entre des artistes liés à la Philharmonie de Paris et des professeurs du Collège de France. Vous le savez sans doute, la Philharmonie est aussi un musée, le musée de la musique qui propose chaque année des expositions temporaires, tout récemment encore Kandinsky, la musique des couleurs, en association avec le Centre Pompidou, mais qui bien sûr aussi a ses collections, près de 9000 instruments et œuvres d'art présentées dans un parcours permanent qui a été repensé la saison dernière avec notamment la création d'un nouvel espace des musiques et des mondes. C'est la direction que nous allons prendre ce soir donc pour cette discussion autour du thème Figurer la musique avec nos deux invités que nous remercions. Gaëlle Schwann, en effet, artiste plasticienne, vous travaillez la sculpture, le son, la vidéo, vous créez des dispositifs, des installations, des performances. Vous êtes lauréate du prix Marcel Duchamp 2024 et vous étiez l'une des artistes en résonance de la saison 2024-2025 à la Philharmonie de Paris. Vous avez créé une œuvre qui a intégré le nouveau parcours du musée de la musique. Nous allons en parler dans un tout petit instant. Et donc, Patrick Boucheron, merci à vous également, historien titulaire ici de la chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e-16e siècle. Votre enseignement cette année porte sur les lieux de pouvoir et vous étiez ici même cet après-midi pour votre cours. C'est l'occasion de rappeler, car c'est vraiment précieux, que tout cela est disponible en ligne également. Parmi vos ouvrages, je cite le plus récent, bien sûr, Peste noire aux éditions du Seuil, mais aussi la nouvelle édition de l'Histoire mondiale de la France que vous avez dirigée au Seuil également. Et puis parmi vos livres plus anciens, Conjurer la peur, essai sur la force politique des images, Sienne 1338, qui est disponible en poche aux éditions Point. Et puis je cite aussi Faire musée d'une histoire commune, qui était en 2019 le rapport de préfiguration de la nouvelle exposition permanente du Musée national de l'histoire de l'immigration, puisque vous aviez présidé le comité scientifique en charge de cette refonte qui a abouti, elle, en 2023. 2023, année où vous avez vous-même présenté, proposé différentes installations et performances, Gaëlle Schwann, dans ce musée de la Porte Dorée. Et puis enfin, je rappelle également votre émission sur France Culture, Patrick Boucheron, Allons-y voir, le dimanche à 14h. Alors, nous allons donc tout de suite entrer avec vous, Gaëlle Schwann, dans ce musée de la musique où se trouve donc, depuis la refonte du parcours permanent, dans cet espace que vous voyez ici, vous en voyez une partie des musiques et des mondes, l'une de vos œuvres, Je suis son, je suis esprit, c'est ce que vous voyez à la droite de l'image, on va voir différentes images, maintenant c'est à gauche. D'abord, peut-être, pouvez-vous nous expliquer, nous dire comment vous avez reçu cette proposition qui vous était faite de créer une œuvre pour le Musée de la Musique, comment vous avez abordé, finalement, reçu et abordé cette proposition et peut-être les questions que ça vous a posées au départ, en tout cas.
Donc oui, ça a été une invitation de Alexandre Gérard Muscagori, le conservateur et le commissaire de cette exposition permanente. Et donc l'idée était de travailler avec la collection des conques provenant du Quai Branly, initialement. Et aussi certaines conques qui appartiennent à la Philharmonie et au Musée de la Musique, plus précisément. Donc, dans ce contexte, la question était déjà de savoir comment on montre des instruments de musique. Évidemment, moi, plasticienne, je veux activer, je veux qu'on entende ces conques. Donc, pour moi, c'est évident, on est dans un musée de la musique, donc le son doit être émis quelque part. Donc, c'est ce que j'ai fait, mais dans un second temps. L'œuvre principale est donc un enchevêtrement de tiges, de racines, de laitons qui tiennent ces conques qui viennent de provenances très 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 différentes. Nous avions avec Alexandre et aussi Nicolas Prévost qui est ethnomusicologue fait créer des critères pour permettre la sélection des conques qui étaient d'abord géographiques, parce que je me suis rendu compte, enfin j'ai découvert dans ces recherches que les conques sont activées, jouées partout dans le monde, et notamment le plus précisément dans les montagnes, ce qui n'est pas forcément la logique. Et donc, l'idée était déjà de montrer des conques de continents différents. Et ensuite, le deuxième critère était esthétique, mais surtout énergétique, vibratoire. C'est-à-dire la puissance qu'émane, parce que ce sont des objets magiques, spirituel. Et donc, dans ce contexte-là, il était important aussi de prendre en compte cet élément-là. Et pour finir, donc il y a cet élément important qui est le fait de trouver un moyen, un dispositif sculptural pour voir les conques dans tous les sens. C'est-à-dire que le fait qu'elles soient suspendues permet de tourner presque à 360 degrés et de voir tous les côtés. Alors que l'habitude dans les musées, souvent, est de voir qu'un point de vue. Vous voyez que le dessus de la conque ou le côté de la conque. Peut-être que c'est une invitation claire de revoir aussi notre manière de penser le monde, de le voir par différents points de vue et non plus d'une seule façon. Donc ça, c'est dans cette vitrine qui m'était obligée, évidemment, s'il ne tenait qu'à moi, je n'aurais même pas mis de vitrine. Mais étant, nous travaillons avec un patrimoine culturel, il était évident de protéger les objets. Et c'est pour ça que, de manière un peu rebelle, une conque, celle-ci, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots quelconque, sort de la vitrine et veut nous faire passer un message, veut nous dire quelque chose. Celle-ci est sonore et elle est à l'extérieur de la vitrine. Donc les spectateurs ils sont invités à poser ou en tout cas se positionner pour écouter ce que la conque a à dire. Voilà.
Alors on va l'écouter dans quelques instants, mais d'abord peut-être avec vous Patrick Boucheron, ce que l'on voit déjà là avec cette œuvre et ce que nous en dit là dans ce début de discussion Gaël Schwann, c'est finalement déjà tout ce que l'on peut dire en montrant comment on montre là quelque part la musique, mais que à travers ça, on montre une manière d'être au monde, de réunir les histoires du monde, de remplir l'étendue du monde, comme dit Édouard Glissant, qui était précisément une très forte inspiration pour cette réflexion autour de ce nouveau parcours.
Oui, bien sûr, Édouard Glissant est un invité d'honneur dans cette discussion, puisque de la musique, on pourrait dire en somme que c'est peut-être le meilleur observatoire de la mondialisation, de la globalisation, c'est-à-dire de la bande-son du village planétaire. Mais là, c'est tout le contraire. C'est justement l'archipel de Glissant, c'est le tout-monde, c'est-à-dire la diversité des sonorités, des consonances, et aussi de, comme vous le dites si bien, Gaël, de tout ce que ça peut nous faire encore aujourd'hui. Moi, je suis très admiratif, d'abord, de votre intervention dans cette galerie, une intervention vivante, vibrante, on va l'entendre, d'ailleurs, et puis de la galerie elle-même, parce que ce n'est pas facile de faire un musée de la musique. Et c'est encore moins facile quand on est dans cette section des musiques du monde, des ailleurs, des lointains, où là, d'une certaine manière, si on a, qu'est-ce qu'on a à exposer, qu'est-ce qu'on a à voir, et on y reviendra peut-être, sur la question de ce que c'est que figurer la musique, ce qui est, au fond, paradoxalement, voilà, une difficulté insurmontable, et encore davantage lorsque, effectivement, on est hors de nos habitudes, loin de notre bande-son quotidienne. Donc, on va dire, on expose des instruments. Mais le musée, alors, est un cimetière. C'est la même question, d'ailleurs, que celle du quai Branly, c'est-à-dire qu'on rassemble et on dévitalise. C'est-à-dire que tous ces objets sont arrachés à leurs usages. Et donc, c'est à la fois très beau et très triste. Et pour que ça ne soit pas triste, il faut les faire jouer. Il faut que ça soit un espace enjoué, en fait. Et c'est ça que les conques, effectivement, de Gaël Schwann réalisent.
Alors, il faut dire quand même, là, c'est le petit moment juste où on précise que, justement, cette question, évidemment, de mettre des instruments sous vitrine est une question d'origine de ce type de musée, bien sûr, et que c'est pour ça qu'il y a, malgré tout, tous les jours des concerts dans ce musée pour que, voilà, garder cette dimension sonore, mais bien entendu, tous les instruments conservés ne peuvent pas être joués, et donc, bien sûr, la question demeure. Alors, peut-être encore avant d'écouter, effectivement, la composition que vous avez réalisée, Gaël, autour de cette œuvre, vous nous avez aussi donné ces images-là qui montrent le dispositif et finalement ces fils de laiton, c'est ça, qui relient ces différentes conques et donc on peut aussi dire peut-être les différents continents d'où elles viennent et qui par ailleurs transmettent cette vibration qui vous est si chère aussi.
Oui, tout à fait. Bon, ça c'était le premier croquis préparatoire, évidemment. Le quai Branly a un peu peur quand il a vu ce dessin parce qu'ils se sont dit bon, comment vont tenir les conques. Mais effectivement, c'était plus une manière de figurer ma volonté de créer des cordes comme ça, presque, en tout cas des fils, des racines, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui relie et en même temps qui se noue, se dénoue dans des histoires coloniales, mais tout d'un coup qui se retrouve unifié dans ce musée. Et pourquoi, comment, donc c'était aussi la volonté de ce musée d'expliquer l'origine de ces objets. Pour revenir au son qui est joué dans l'installation et dans le musée, ce ne sont pas malheureusement les conques du quai Branly, parce que la demande m'a été refusée pour des questions de patrimoine. Je n'ai pas plus d'informations. Et donc, c'était très frustrant. Mais heureusement, Nicolas Prévost, qui est aussi musicien et un très grand collectionneur de conques, avait tout un panel de conques qu'on a pu enregistrer au sein de la Philharmonie. Et aussi, j'ai fait une demande au quai Branly quand nous sommes allés sélectionner les conques. J'ai fait une demande à rester seule dans l'espace. Et en fait, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis plusieurs années. C'est ce don de canaliser des messages. Donc j'ai voulu entendre et retranscrire la vibration que ces objets m'offraient comme message. Et c'est les enregistrements qu'on va entendre là de ma voix ont été faits directement dans le quai Branly, dans les salles, quand j'étais en dialogue, en connexion avec ces objets. Certains sont, donc je ne l'ai pas précisé, mais de tous les continents, enfin, Europe évidemment, mais Polynésie française, Madagascar, Nouvelle-Calédonie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, certains ont des ajouts végétales de cheveux, de poils, de chauves-souris, c'est incroyable. Donc ce sont des objets qui ont eu des fonctions, comme vous le disiez. Et ça, je l'ai découvert quand j'ai discuté avec elle, entre guillemets. Et en fait, tout ce que je disais, finalement, se recoupait avec les recherches de Nicolas Prévost. Donc on était quand même, on était alignés là-dessus. Voilà.
Alors on va donc écouter un extrait de donc cette bande sonore que vous avez composée et qui fait partie de l'œuvre.
Je suis fierté. Je suis honneur. Au service d'un message entre les forces de la nature et les humains. Je suis ornée, je suis ornement. Je suis mort pour honorer un groupe d'humains avec fierté. En tant que minéral, je vis au travers des vibrations et des fréquences. En fusion, en union, en collaboration avec le souffle des hommes, le souffle divin, nous créons ensemble une fréquence. On m'a choisi parmi des millions. Parmi des millions de coquillages, on m'a choisi pour cette fonction, cette mission. Aujourd'hui, je souhaiterais vibrer de nouveau.
Alors, on entend votre voix et on entend que vous dites « je », au-delà de faire entendre leurs sons, de les activer, comme vous disiez, pourquoi fallait-il aussi leur donner la parole ?
C'est ça, je pense que il était temps de leur donner la parole. Et je voulais préciser que la composition, elle a été faite par l'artiste Kim Kan, donc avec qui j'ai collaboré. Donc, en fait, on lui a donné... On a fait tout un enregistrement de sons de conques et ensuite on a discuté avec Kim Kan pour créer une composition musicale et venir amener la parole sur ce son. Effectivement, quand je canalise des messages, je deviens un messager, une messagère. Donc c'est vraiment le jeu, c'est le je suis son, je suis esprit, et c'était le moment de leur donner la parole. Mais juste pour finir, ce qui est important de savoir, c'est que dans beaucoup de cultures, et en fait la conque, c'est le premier son. C'est le son primordial de la création du monde. Et comme le dit d'ailleurs un égyptologue, Kalala Omotunde, le monde n'a pas été créé par la verbe, mais par le son. Et c'est ce son-là, si nous devions trouver la première note, c'est la conque. Donc c'est aussi très important et très fort, je pense, de nous faire entendre ce son.
Oui, vous nous avez donné la provenance, enfin, l'état des différentes provenances. Il faut dire effectivement qu'une conque, c'est-à-dire un coquillage qui sonne, et qui sonne parce qu'on l'a percé, et qu'on l'a percé à un certain endroit d'une certaine manière, et qu'on le fait vibrer effectivement, non seulement, c'est pas seulement une technique, c'est comme vous le dites, une spiritualité. Enfin, vous le dites et vous le faites dire à ces instruments, dont on pourrait dire simplement que c'est un des plus universels. En tout cas, des plus partagés, des plus communs. Il n'y a pas de continent, il n'y a pas de civilisation qui n'ait utilisé la conque. C'est quand même tout à fait frappant. Ce que j'aime aussi dans votre installation, c'est que, oui, ces fils de laiton, on voit bien qu'ils relient qu'ils font rhizome, pourrait-on dire, mais ils électrisent aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'être là à l'origine des musiques électriques, dont on aurait bien tort de ramener l'histoire au XXe siècle. En fait, elles sont plus anciennes, les musiques électriques. Et tout ça, je trouve que ce qui est important dans votre travail, si je peux me permettre, c'est que vous venez de dire combien il avait consonné et qu'il s'était enrichi de l'histoire, en fait, de votre dialogue avec les conservatrices, les conservateurs, les ethnomusicologues, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire de ces instruments s'intéresse pas simplement à leurs usages, mais aussi à la patrimonialisation. Vous parliez de patrimoine, et en particulier au musée du Quai Branly. Bon, là, c'est un petit peu embarrassant, parce qu'on va parler d'invisibilisation. Ça ne serait pas à moi de parler de ça, mais de mon épouse, Mélanie Traversier, qui travaille justement au Quai Branly sur la question des appropriations coloniales des instruments. Hein. Et quand les instruments, en particulier océaniens, mais partout au fond, et en situation coloniale, arrivent à partir du XVIIIe siècle dans les collections européennes, elles y sont effectivement, pourrait-on dire, patrimonialisé, mais aussi dévalorisé, parce que on va les inscrire dans une généalogie ou dans une universalité, mais plus dans un usage ni dans une société. Et c'est donc tout ça qu'il faut réparer à nouveau. Et c'est ce que vous faites, me semble-t-il.
Oui, en tout cas, je tente, même si j'ai été freinée, puisqu'on a, malheureusement pas pu activer les conques du Quai Branly. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le MUCEM a accepté. Donc certains sons que vous avez entendus sont des conques qui proviennent de la collection du MUCEM. Et pendant que nous étions en train d'enregistrer, une des conques n'a pas sonné, ne sonnait pas. Ça veut dire...
Elle avait ses raisons.
C'est surtout que ça veut dire que ce n'était pas un instrument de musique. Donc, ça montre aussi, de manière très drôle, la projection, la spéculation, la fiction qu'on pose, qui a été posée en Occident sur ces objets. Donc, pendant 20 ans, peut-être, cet objet était exposé au MUCEM, ou 20 ou 50 ans, je ne sais pas, comme un instrument de musique, mais personne ne l'avait joué. Donc... personne ne s'est rendu compte que ce n'était pas un instrument. Donc, c'est dans ce genre d'anecdotes qu'on découvre à quel point il y a un manque, qu'il y a une forme de fétichisation de ces objets-là, qui est maintenant problématique, en fait.
Oui, c'est la question de l'archéologie participative, comme l'on dit aujourd'hui, c'est-à-dire au fond qui interroge non seulement de manière critique, comme vous le dites, la provenance et l'appropriation des objets, mais qui cherche tout simplement à les utiliser pour mieux les comprendre. Il y a plein d'histoires amusantes de musées comme ça, en particulier de musées d'antiquité nationale. On avait pendant très longtemps dans les réserves des musées, parce qu'on savait pas trop quoi en faire, il y avait des sortes de petites coupelles très très évasées qu'on disait, faute de mieux, verre à boire. Et puis quelqu'un, à un moment, a eu l'idée d'essayer de boire et s'en est mis partout. Et donc, en fait, c'est pas ça. Donc, c'est autre chose. Mais à partir du moment où on comprend que c'est autre chose, on cherche ce que ça pourrait être. Et c'était, en fait, des réceptacles à cire ou à huile pour les lampes, et qui étaient jetables, en fait. C'était des recharges. Et c'est pour ça qu'on en trouve des milliers partout dans les cales des bateaux. Mais si on ne l'essaye pas, on ne le sait pas.
Bien sûr. Alors, vous l'avez cité plusieurs fois, Gaël Chouanne, donc le conservateur Alexandre Gérard Muscagori, qui a pensé avec les équipes du musée donc ce nouveau parcours, explique dans l'ouvrage qui l'accompagne, Eh ben, ce que vous disiez, Patrick Bougeron, à savoir que les contextes historiques, sociaux, politiques ont longtemps été tenus à l'écart, longtemps été non pris en compte dans la manière dont on regardait les instruments de musique, et évidemment fait partie de ce contexte, la manière dont ces instruments sont arrivés jusqu'à nous, comment aussi on a pu plaquer des fantasmes sur eux, en particulier lorsqu'ils venaient notamment d'Afrique ou des Amériques. C'est là-dedans aussi que vous vous inscrivez dans ce travail-là, Gaël Chouanne. Et Patrick Boucheron, je voulais vous faire réagir justement au titre qui a été choisi pour ce livre qui va avec ce nouveau parcours, L'instrument monde, une histoire globale de la musique. Alors on peut peut-être discuter de histoire globale, histoire mondiale, mais aussi de ce terme d'instrument monde. Comment est-ce qu'il sonne à vos oreilles ?
C'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux manières de le considérer. Soit on fait l'inventaire du monde dans sa diversité, et alors je comprends votre remarque, on n'est pas dans l'histoire globale, on est plutôt dans l'histoire mondiale. Ou alors on fait l'histoire de la musique globalisée, mais ce n'est pas du tout de cela dont il s'agit. Non, dire simplement que si on veut comprendre aujourd'hui les enjeux de la mondialisation des savoirs ou de ce qu'on appelle l'histoire connectée, la musique est la plus évidente, la plus belle et la plus entraînante des guides pour effectivement nous faire comprendre tout ce qu'on gagne à élargir l'horizon. Pas simplement aller entendre des sonorités que l'on croit étrangères et à les rendre familières, mais inversement à dépayser. À la fois, il s'agit de dépayser l'étrangeté et de rendre étrangères nos fausses familiarités. Parce que prenez le piano, qui est l'objet monde par excellence, l'instrument à partir du 19e siècle qui conquiert le monde. On peut dire que pour faire une blanche et une noire, une touche blanche et une touche noire, il faut de l'ivoire et il faut de l'ébène. Donc on est dans un système qui est de bout en bout colonial. Sans quoi, on ne peut pas comprendre pourquoi il y a tant de pianos partout en Europe et très rapidement au-delà. Donc toute l'histoire, je ne parle même pas du violon, mais toute l'histoire, effectivement, des instruments de musique est une histoire de circulation. Circulation des savoirs, circulation aussi des dominations. Et c'est pour cela, effectivement, que la question de la colonialité est quand même très présente dans votre travail.
Oui, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai voulu vraiment insister sur cette dimension spirituelle et de canalisation de messages, parce que c'est aussi une manière d'inclure la spiritualité dans une recherche scientifique. Donc c'était ça aussi l'enjeu avec Nicolas et Alexandre, et aussi de pointer au passage du doigt ce regard occidental qui se veut scientifique ou très très neutre, objectif, alors que si on va chercher un peu, évidemment, il y a une dimension affective qui est très forte, étrange, et du coup. Cette dimension coloniale, c'est ça, c'est ce regard posé sur l'autre, mais sans vraiment écouter ce que dit l'autre, ou prendre simplement ce qu'on veut et sans considération de ce qu'est l'autre. Et c'est ça qui est à réparer aujourd'hui dans nos musées en France et dans les comportements en général, en fait. C'est prendre l'autre dans toute sa globalité de ce qu'il est, et pas simplement prendre à la carte ce qui nous intéresse, et puis le reste, on le rejette. Voilà.
Peut-être dire simplement que, on disait tout à l'heure que c'était difficile de figurer la musique, de faire musée avec des instruments de musique. En revanche, de faire comprendre ce que c'est que l'histoire mondiale avec la musique, rien de plus facile en somme. Vous parliez du Musée national d'histoire de l'immigration, avec lequel vous avez aussi des projets, Gaël, de réparation, si j'ai bien compris, justement, oui. De réparation de mémoire, quand on a fait le parcours permanent. On n'a pas pris beaucoup de risques en pariant que la salle centrale, le jukebox mondial, qui effectivement permettait aux jeunes et aux moins jeunes de choisir toutes les musiques qui étaient issues de l'immigration et qui avaient fait, je dirais, la bande-son de la France, serait le clou du spectacle. C'est le plus simple, c'est le plus évident pour faire comprendre effectivement ce que c'est que l'apport de l'immigration à la population française, qui est le projet de ce musée. Il suffit d'ouvrir les oreilles.
Et puis, aussi, la musique peut aussi donner des clés visuelles, et ça, c'est juste une parenthèse, mais parce que ça résonne aussi quand même un peu avec ce que vous dites, Patrick Boucheron, quand vous aviez consacré une émission sur France Culture à l'exposition Paris Noir, qui a eu lieu l'année dernière, au Centre Pompidou, vous aviez... Vous aviez choisi d'y entrer par la musique, en notant justement, parce que effectivement ça se voyait dans cette exposition, en notant voilà de quelle manière finalement la musique avait donné aux arts visuels de quoi représenter les luttes.
Oui, mais inversement, si je voulais ramener ma fraise médiéviste, je dirais que de tout cela, de tout ce que vous dites, Gaël Chouan, on pourrait trouver aussi des référents, et en particulier la question de l'inspiration. On se posait la question, Chloé, de ce qu'on allait pouvoir chercher dans l'idée même de figurer la musique dans... c'est pas simplement faire voir les instruments de musique. C'est donner à comprendre, à sentir, à ressentir l'élan musical, ce que vous appelez la spiritualité. Et il n'y a pas, une enluminure médiévale qui ne représente à la fois l'un et l'autre, c'est-à-dire des instrumentistes et puis l'ars musica, les sphères et cette inspiration qui est aussi une élévation.
Donner à voir, donner à penser, et nous allons continuer avec toujours en nous appuyant sur votre travail, Gaël Chouan, essayer d'expliquer la manière dont faire voir peut aussi être une façon de faire entendre, et donc là on retourne un peu peut-être l'idée de départ avec une autre de vos œuvres. C'est une vidéo qui est titrée The Sea Says Nothing, que vous avez créée je crois au début en 2015 et qui a été présentée dans différents contextes, de différentes manières, à différents endroits, sous différentes formes aussi. C'est une vidéo, on en verra un peu après, mais le point de départ de ce travail est la musique. Alors peut-être que vous pouvez nous en parler déjà de ce point de départ, de la genèse de cette œuvre et comment finalement cette œuvre visuelle part d'un besoin de faire entendre.
Oui, alors pour cette vidéo, qui n'est pas qu'une vidéo d'ailleurs, donc la genèse commence en 2015 quand je rencontre à Montréal Françoise Forêt, qui est une vieille amie de Carmen Brouard, qui est décédée, que je rencontre et qui me donne les partitions de Carmen en me disant, voilà, Carmen Brouard était une compositrice, pianiste, amie de Ravel. Elle a passé du temps à Paris, mais elle n'a pas été réellement connue, ou très brièvement. Je veux que tu joues son œuvre. Donc, ok, donc je prends les partitions et j'ai cette mission. Et donc, en 2018, à Amsterdam, j'arrive à trouver un moyen pour figurer la musique de Carmen au travers de cette vidéo qui s'appelle The Sea Says Nothing et qui devient en fait un cinéma muet. Donc, la vidéo est projetée et nous avons un pianiste et un violoniste qui jouent en live. La problématique est que, bon, moi j'ai fini les Beaux-Arts en 2013, donc j'avais pas forcément énormément de moyens. Payer un pianiste, c'est un coût. Et puis, je me rends compte aussi, surtout, que pas tous les pianistes ne peuvent jouer Carmel Brouard. C'est assez complexe. Et aussi, idéologiquement, une femme haïtienne, née en 1906, décédée en 2005, compositrice de musique classique, ça ne se voit pas tous les jours. Donc, j'ai mis du temps à trouver déjà le pianiste, le violoniste pour accepter. Et finalement, j'ai eu la chance de rencontrer donc R. Livenon qui a joué à Amsterdam au piano, Caroline Wagner au violon. Ensuite, ça a été joué à Los Angeles la même année. Ensuite, à New York. Et ça a mis quelques années, donc en 2020, ça a été joué pour la première fois à Paris, pendant un événement à Pompidou-la-Villette, c'était organisé en collaboration. Et donc l'œuvre a grandi comme ça. Mais voilà, l'idée c'était de faire un hommage à cette compositrice de piano, très peu connue, qui a passé quand même une bonne partie de sa vie à Paris, donc qui aurait pu avoir cet accès, et qui est découverte que maintenant. En 2020, j'ai invité Célimène Daudet, une très grande pianiste franco-haïtienne, qui découvre aussi Carmen Brouard, qui maintenant la joue. Donc, cette diffusion fonctionne, et Carmen, j'espère, sera diffusée encore longtemps.
Alors, on va donc regarder le début. Ça fait 17 minutes environ. Là, on va regarder à peu près 3 minutes.
Voilà.
Et puis, le reste du monde.
Nous expliquer un peu ce qu'on vient de voir pour le coup.
Oui, alors déjà c'est la sonate vaudoise en trois mouvements de 1966. Vous pouvez entendre la qualité musicale, les tambours qui sont signifiés d'une manière ou d'une autre avec le piano. Évidemment, alors j'aime travailler avec des archives et je tombe sur ce film, Le chanteur de jazz, 1927, de Alan Crosland. premier film, donc première partie du film muet. Nous avons ce personnage, acteur Al Jolson, qui se grime, donc aussi je voulais montrer en silence ce qui n'est plus, ce qu'il a dénoncé aussi, ce grimage, ce blackface. Et finalement, quand il monte sur scène pour chanter la première chanson du film, on passe au film parlant. C'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Et donc je viens, je déjoue finalement la présence du son et je viens ajouter, Carmen vient commenter d'une certaine manière avec ce piano qui est mêlé de rythme vaudou, donc quelque chose qui ne se fait pas, apparemment.
Et l'océan.
Et l'océan, voilà. La mer, donc une histoire évidemment de l'Atlantide, de la traite négrière, d'un regard et de la représentation des corps noirs en Occident et au cinéma. Finalement, c'était ça le sujet principal, c'était la représentation des corps noirs au cinéma. Plus tard dans le film, on voit aussi le premier baiser de personnes racisées. Donc là, la première fois où on voit l'intimité de deux personnes noires en 1898 dans un petit film qui s'appelle Something Good Negro Kiss par William Selig. Et donc voilà, c'est une manière aussi de dénoncer et de visibiliser des choses que finalement on a mis un peu sous le tapis.
Et de visibiliser finalement en la faisant entendre une artiste qui a été invisibilisée, Patrick Boucheron, cette manière finalement de donner à voir, donner à entendre comme façon de porter à notre attention en fait. Là, c'est ça qui est.
Bah oui, c'est une œuvre de connaissance et de reconnaissance, de justice, mais une œuvre d'abord. C'est ça qu'on entend et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que tout le travail actuellement de restauration du patrimoine, qui est un travail très important hein, et qui a commencé il y a quelques années, mais qui ne cesse au fond de mobiliser des artistes, des universitaires, des institutions publiques, il faut le dire, l'industrie musicale, la DAMI, etc. C'est un grand chantier et dont on comprend bien aujourd'hui qu'il ne s'agit pas simplement de se, encore une fois, de réparer. Il s'agit de ne plus se priver d'un trésor. Voilà, c'est-à-dire que c'est juste une perte qu'on peut tenter on peut ouvrir ses oreilles à cette. C'est... Et puis il y a le métissage, il y a cette question, voilà, qui est quand même très, très, très beau aussi chez Carmen Brouard, c'est-à-dire une composition, un phrasé pianistique qui est apparemment tout à fait classique, et puis derrière, enfin, ici c'est derrière, de temps en temps c'est ailleurs, les rythmes vaudous.
Oui, voilà, ce métissage qui montre aussi comment une forme d'anthropophagie culturelle qui fait que si on prend le meilleur de plusieurs cultures, ça donne ce genre de d'œuvres très atypiques et très puissantes. Et je pense que pour rajouter un commentaire, effectivement, je pense que ce travail de déconstruction, de dénonciation, de mettre et de rendre visible est concret. C'est-à-dire que c'est plus et ça ne doit plus être que des mots, comme cette vitrine où on voit un objet et qu'on dit c'est ça, mais de l'action et de la mise en action, de la mise en valeur et du partage sincère et bienveillant.
Et de la performance aussi. C'est vrai qu'à la fin, il faut que ça fasse quelque chose.
C'est ça.
Il faut que ça fasse quelque chose dans le parcours de visite, dans l'émotion esthétique. Ça me fait penser, moi j'ai eu la chance d'échanger avec Amalia Laurent, je ne sais pas si vous connaissez, à la Villa Médicis, qui travaille, elle, qui est franco-indonésienne, et qui travaille sur le gong javanais, qui est pas un instrument, qui est un orchestre.
Le gamelan, fond, oui.
Hein, voilà. Où chacun, comme un piano, où chacun est une touche. Et donc, il faut jouer à 15-20, etc. Et qui a réussi, là encore, commande publique, à créer sa pièce à la Sainte-Chapelle. Et parce que ce qui est en jeu, ça me fait aussi beaucoup penser à votre travail, c'est ce rapport apparemment étrange, déplacé ou dépaysé, à la spiritualité. Hein. Parce que c'est ça, au fond, hein, figurer la musique, ça reste quand même fondamentalement donner à voir ce sentiment d'élévation. Voilà.
Alors, on peut signaler, ce n'est pas encore, ce sera annoncé dans la saison d'Andoki, donc dans quelques semaines, mais que Amalia Laurent sera présente la saison prochaine à la Cité de la Musique avec la suite justement de ce qu'elle a travaillé à la Villa Médicis. Alors, vous avez dit, Patrick Boucheron, il faut à la fin aussi qu'il y ait cette performance, que ça nous fasse quelque chose. Là, on a compris depuis le début de cette discussion à quel point la musique, mais au-delà, c'est-à-dire le son, la puissance vibratoire est importante dans votre travail, Gaël Chouan. Et donc, justement, vous travaillez depuis quelque temps sur une performance qui s'appelle Aura, où vous êtes donc vous-même en scène, où vous chantez, où vous parlez. Et donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de ce projet qu'on espère pouvoir voir bientôt, et finalement, dans quelle mesure est-ce que c'est peut-être encore un pas supplémentaire dans tout ce qu'on vient de décrire là, c'est-à-dire aussi de devenir peut-être la figuration de la musique, ou je ne sais pas, d'incarner quelque chose.
Oui, alors je pense que l'intérêt pour la vibration, la fréquence vibratoire, elle est essentielle aussi dans ma vie quotidienne, parce que nous sommes vibration. Nous sommes composés d'eau et finalement si on regarde un petit peu l'histoire, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les figures de Chaldny, qui sont ces expérimentations où Chaldny a mis du sable sur des plaques de laiton, il a fait jouer donc des notes et ça a créé des formes. Ensuite, dans les années 60, Jenny a refait ses expérimentations avec de l'eau. On y a même fait une expérimentation avec de la fécule de pomme de terre, et on voit que le son influence les formes. Et donc, ça veut dire que les sons qu'on reçoit chaque jour nous influencent, ont une forte influence sur nous, puisque nous sommes composés à 80% d'eau. Donc, à partir de là, je pense qu'on devrait tous s'intéresser aux fréquences vibratoires. Il est temps, d'ailleurs. en tout cas, et j'y viens, donc ce projet Aura, c'est une nouvelle étape, parce qu'effectivement, je n'avais jamais chanté de ma vie, et puis j'ai pris des cours. Comme quoi, on a tous cet instrument en nous. Il demande simplement à être activé, exercé. Mais on sait tous chanter. Nous sommes tous donc des instruments vibratoires. Et donc, l'idée de ce projet est donc avec Daniele Morelli à la guitare, musicien en jazz, et Kathleen Noël, danseuse haïtienne, nous improvisons en live, donc sans partition, simplement nourris des énergies aussi de la salle et des spectateuristes qui sont présents ce soir-là. Et l'idée est que ce soit un moment aussi de soin. Si ces vibrations peuvent avoir une influence, dans ce cas-là, je fais un moment pour que ces sons, ces vibrations soient bienveillantes, amour. Et je chante en glossolalie lors de ces performances qui sont inédites. Je ne sais pas encore à Paris quand est-ce qu'on aura une date, mais en tout cas, ça a été joué à Bruxelles,
à Arles et ça sera joué aussi à Miami en décembre prochain. Donc on verra et j'espère que vous pourrez être présents.
On va peut-être terminer en faisant une petite échappée parce que on voulait aussi justement dans cette discussion montrer à quel point donc se figurer la musique peut prendre plein de formes justement incarnées différemment, montrées différemment et donc on voulait terminer avec, je l'ai cité au tout début, mais cette exposition récente donc, qui a eu lieu au Musée de la Musique avec le Centre Pompidou, Kandinsky, la musique des couleurs. Là, il se trouve que c'est le catalogue de l'exposition, mais on a mis ça parce que elle reprend un tableau de 1911 qui s'appelle Impression 3 concerts, et que lorsque vous avez évoqué cette exposition dans Allons-y voir Patrick Boucheron, c'est avec cette toile-là que vous avez ouvert la discussion. Est-ce que on peut finalement là aussi voir encore une autre manière de figurer la musique dans ce peindre musicalement, comme vous avez dit vous-même au cours de cette émission de Kandinsky?
Oui, mais tout ce que vous avez dit sur la vibration, sur justement la couleur qui prend congé de l'objet pour s'élever, tout ça, effectivement, Kandinsky a tenté à la fois de le peindre et de le dire, de l'écrire. Je signale d'ailleurs que c'est un extraordinaire texte poétique qui s'appelle Les Marches, qui est à la fois un récit de son art et aussi une autobiographie poétique, a été retraduit chez Verdier il y a quelques mois. Il se décrit comme quelqu'un qui toute sa vie a voulu échapper au noir. Différentes terreurs d'enfance. Et là, le noir de ce concert, puisque effectivement ça s'appelle Après le concert, et on sait quel est ce concert. C'est un concert de Schoenberg où tout le monde était bouleversé. On est effectivement en 1911. Le noir, c'est le noir du piano. Autour, il y a effectivement une autre masse de couleur jaune. Là, on ne voit que la partie centrale du tableau, mais si on dézoome, on verrait des lustres, on verrait des raies de lumière blanche, mais ce qu'on voit surtout, qui descendent, mais ce qu'on voit surtout, c'est ceux qui sont au concert, le public, chacun dans sa couleur, mais chacun dans son comme une flamme qui s'élève. C'est ça, au fond, quand vous dites « qu'est-ce que ça fait ?» Qu'est-ce que ça va nous faire? Kandinsky a tenté de le donner à, de le figurer, en fait, ce que ça nous fait. C'est d'ailleurs assez intéressant sur cette question du concert. J'ai jamais vraiment su si au concert on était seul ou ensemble. Enfin, si, quand je vais dans un concert de rock, je sais que qu'on est ensemble. Que l'autre n'est pas un ennemi. À la philharmonie, c'est pas toujours évident. Il y a quand même, voilà. Une sorte de conjuration des tousseurs qui peut provoquer des sentiments pas toujours aimables. Mais donc, ce qui est caractéristique ici, c'est justement cette. Parce qu'on pourrait aussi en parler dans l'art de Gaël Schwann, c'est-à-dire le rapport entre un évident souci de l'histoire, du passé et du collectif, en fait, de faire corps avec le monde et son histoire, et en même temps, ce qui s'échappe, ces couleurs qui s'échappent de leur forme, ce sont quand même des esprits individuels, en fait. Voilà. Et ils en ont beaucoup parlé, d'ailleurs, de cette soirée au concert de 1911, Schoenberg, Kandinsky avec tous ses amis, ils en parlent, ils étaient ensemble, mais ils étaient ensemble séparément. Ce qui est quand même aussi l'expérience de la musique. Enfin, de la musique classique, en tout cas.
Et ce qui est en même temps, là, c'est peut-être un peu osé ce que je vais faire, mais ce qui est aussi, puisqu'on a commencé avec lui, et ce qui est aussi très glissant, c'est-à-dire, c'est chacun différent dans la relation, mais on ne se perd pas en étant en relation avec les autres, et finalement, on y revient quand même. Gaël Schwann, peut-être, si vous voulez rebondir sur ce qui a été dit, et je pour reboucler aussi sur ces échappées, c'est vrai qu'on est passé un peu vite sur cette conque qui n'est pas dans la vitrine. Mais peut-être, là, ça me fait repenser du coup ce que disait Patrick Boucheron sur la manière dont, parce que là, on a vu cet exemple-là avec cette œuvre, mais en fait, systématiquement ou presque, quand vous présentez des choses dans des musées, vous veillez toujours à ce qui est cette espèce de point de contact ou quelque chose qui va créer le rapport direct avec les visiteurs et visiteuses. C'est-à-dire que toujours trouver comment finalement on va ne pas être seulement dans la vitrine, quoi, ou à regarder la vitrine.
Oui, et je pense que ce point de contact, c'est aussi que être seul, c'est une illusion. Finalement, si je reprends les stoïciens qui parlaient de la sympathie universelle, hein, concept qu'on pourrait remettre un petit peu au goût du jour, hein, qui s'est perdu, hélas, je ne sais pas pourquoi, c'était pas assez vendeur, mais qui dit que du coup, nous sommes connectés à un tout, à l'univers. Et que finalement, nous faisons partie de cette grande symphonie. Nous sommes chacun une note de musique et nous créons cette grande symphonie, même si parfois, on a l'impression qu'on fait notre petite note tout seul dans notre coin. Finalement, elle appartient à une plus grande performance, plus grande symphonie, concert. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on devrait garder en tête. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle donc qu'on se retrouve, si vous en avez le souhait, le 31 mars pour la dernière rencontre de ce cycle musique, la Philharmonie au Collège de France. Ce sera donc un grand entretien avec le compositeur et chef d'orchestre Esa-Pekka Salonen, qui sera mené par le directeur de l'Orchestre de Paris, Christian Thompson. Et à l'issue de cet échange donc sur l'avenir des concerts symphoniques, leur forme, la manière dont peut-être on peut peut-être les réinventer pour créer plus de liens, qui sait. À l'issue donc de cet échange, il y aura justement un concert proposé par des musiciens qui font partie de l'Orchestre de Paris, mais qui seront là en formation quatuor, donc c'est le Page Blanche Quartet. Donc vous êtes toutes et tous les bienvenus le 31 mars. Merci beaucoup et merci à vous deux.
Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.